entre un capital financier et un capital productif. Je pense que cette échelle est devenue mondiale. La plupart de nos mesures sont encore restreintes aux États-nations. Donc on va dire quelque chose comme les dividendes atteignent 100% des profits aux États-Unis. Et cependant, l'activité des entreprises américaines est maintenant mondiale. Et le circuit à la fois de la production des biens, des marchandises, du financier, eux aussi sont mondiaux. Ce qui fait que l'économie américaine, c'est aussi l'économie de la Chine. Et le rapport entre les deux, avoir des données pour mesurer ces rapports. Mais nous, ici, dans notre manière de cadrer les choses, il me semble qu'on ne les a pas encore intégrées. Et ça a beaucoup de conséquences. Quand il s'agit de décrire le capital financier comme étant totalement autonomisé par rapport à la production, je ne le crois pas. Carlo, tu as aussi avancé un peu ça, mais je ne crois pas que ce soit vrai. Quand je me déplace dans le monde, je vois que par exemple, si on regarde le cas de l'Argentine, comment la production s'est réorientée vers l'exportation agricole et de matières premières après que une économie industrielle, enfin, la dernière caste a été effectuée avec la crise, on voit que le capital dégagé des possibilités financières de réorienter la production matérielle. Et cela donne des résultats très très loin non seulement de l'Argentine, parce que bon, la soya argentine va surtout en Chine en fait, en Chine et dans d'autres pays asiatiques. Donc cela veut compris le comportement des gens, des rentiers parisiens, ceux qui font que la valeur de la terre, la valeur foncière de la propriété sur Paris fluctue comme ça, cela le fait. Je pense qu'il faut prendre en compte la circulation à la fois des marchandises et des capitaux à l'échelle mondiale. Sans ça, je pense qu'on n'arrive pas. Et je pense qu'on se trompe beaucoup pour cette raison.
Une autre question, je te la pose parce que tout à l'heure, on discutait. Quelle est ta critique par rapport au concept des petits films de la marchandise? Il semblait très intéressant par rapport à l'exposé qu'a fait Guibert, qui tournait complètement sous cette idée.
Le fétichisme suppose quelque part qu'il y a des rapports non fétichisés, non? Qu'il y a des mesures objectives. Moi, je ne crois pas qu'il y ait. Je ne crois pas. On a essayé pendant tout un temps de déterminer des mesures objectives. Cela a correspondu à une certaine stabilisation du capital à l'intérieur des pays impérialistes pendant la période keynésienne fordiste. Mais au-delà de cette stabilisation qui s'effrite complètement et qui tombe en ruine, on revient à une situation où les valeurs sont déterminées par le degré de domination que les puissants exercent sur les autres. Et ça, on le voit constamment et partout. À tel point, cet après-midi, on était dans le 18e arrondissement, le quartier qui s'appelle La Chapelle. Là où, qui est un quartier de population immigrée, très précaire, de gens qui ont des revenus très très bas, etc. Vous trouvez l'implantation d'un bar qui s'appelle Le Cube, qui est en fait un bar où on sert du vodka dans une chambre glacée dans les délirants, quoi. Et la visite du cube où le vodka est à consommation à volonté, hein, c'est de 38 euros. Pour les 38 euros, ça n'a aucune correspondance avec ce qui se passe directement autour. Pourtant, les personnes ont la puissance, qui sont concrètes, la proximité de la gare du Nord, qui peut amener d'autres pays, des gens d'autres métropoles, ou avec une forte concentration financière, consommateurs, qui vont trouver le frisson de la glace juste à une distance de marche de la gare du Nord où ils arrivent avec l'Eurostar. Donc là, je pense qu'effectivement, on peut parler de fétichisation, mais si on parlait de domination, on irait beaucoup plus vite à la mesure des rapports là où il n'y a plus de stabilisation et que les rapports sont, sociaux sont soumis à l'arbitraire du pouvoir. Et donc je me sens très impatient avec la réitération de la conversation sur la fétichisation.